Vous écoutez
RMC.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show pour la reprise 2024. Salut Moundir et meilleurs vœux pour cette belle année.
Oui, bah j'allais te dire la même chose. Bienvenue en cette année 2024 qui j'espère sera pour nous encore un grand, grand succès.
Alors tu parles de l'émission ou tu parles des jetons ?
Non, de mon oseille, bien évidemment.
Oui,
non, des jetons, de nos jetons, de ton prochain Détroit.
Ça va quand même être compliqué pour toi de faire mieux que l'année dernière.
En termes
de résultats poker, ton année 2023, elle était quand même assez énorme.
Ah oui, ça c'est le titre.
Côté triton. La découverte des tritons.
Ah bah oui.
Les croquages à Vegas.
Marrakech.
Pour les résultats, il n'y a pas.
Marrakech. Ouais,
j'ai commencé par Marrakech.
Ah oui, c'est vrai. C'est
dessus,
vrai.
On peut le dire quatre fois.
Non, mais j'y tiens. J'y tiens. Oui, bon, on va essayer. Hein, qu'est-ce que tu veux.
Allez, pour démarrer cette année 2024, on a
du lourd.
Un énorme plateau. Récemment, on parlait du classement des gens qui comptent dans le poker. En France, on a le numéro 1, on a le numéro 2.
Eh oui.
Pas mal.
Il est de passage
à Paris, comme tous les ans à la même période, parce qu'il rentre en France, parce qu'il a de la famille en France, et que pour les fêtes, on rentre toujours au bercail. Greg Chauchon.
Salut.
Oui, salut, boss.
Salut à tous, bonne année. Ouais,
le vice-président des WSOP, le patron du poker mondial.
Oh là, n'exagère.
Le Gianni Infantino.
Oh là là, la comparaison.
Non, je peux pas. Non, je peux pas. À une époque, ça pouvait tenir, mais ça tient plus.
Le Godfather.
On ne peut pas te comparer à des gens qui mangent dans la main. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que
les World Series au Qatar, c'est pas tout de suite. Hein.
Ouais, voilà,
ah ouais
ça.
Ah, mais.
Ah Et si on te proposait quelqu'un
Je pense que ça se tape de suite.
C'est toujours comme ça que ça commence.
Capillairement, il y a un truc capillairement peut-être.
Ah ouais, non,
tout de suite. À côté de toi, Greg, il y a celui avec qui on avait terminé l'année d'ailleurs, en 2023. Le numéro 2 de ce classement.
Celui qu'on appelle le respect.
Celui qui a toujours une actualité poker.
Ah bah,
il n'a jamais une semaine de repos.
Même le dimanche.
Salut Apo.
Salut moi Apo.
Bonne année à tous.
Merci Apo.
De passage également.
Pleine santé. Et beaucoup de poker.
Oui, forcément.
Ah bah, forcément.
Pour toi, de toute façon, les gens viennent toujours à tes parties. Donc,
ouais, est-ce qu'on a bien commencé.
On a encore besoin de te le souhaiter ?
Toujours.
Ah bah oui, attends quand même. Attends. Eh oui.
Un vrai joueur de poker cette fois.
Et pas que.
Voilà.
C'est un entraîneur.
Et également
un coach.
Un entraîneur, je sais pas, mais un coach.
Et un coach bien arrogant.
Je j'en ai un peu besoin en ce moment. Là. Je reviens d'un week-end à San Remo. Où j'ai eu un petit peu de mal.
Je pense que si tu racontes ton coup, je pense que tu risques de te prendre une fessée.
Non, c'est pas parce que tu joues mal un coup que t'es obligé de tomber sur un mec qui le joue encore plus mal et qui te sort.
Oui, mais t'es en Italie.
Et alors, quel rapport ?
En Italie, ah, ils ont très bien.
Quand on joue au Maroc, on joue au Maroc.
Voilà.
Quand on joue en Italie, on joue en Italie. Quand on joue au Circus, c'est quoi ? C'est pas la France. Quand on joue à Vegas, il y a tout. À chaque fois qu'on tombe
sur
un joueur qui fait une connerie, il faut toujours dire c'est parce que c'est dans ce pays.
Non, mais parce que
arrêter.
Il a joué.
Faut arrêter.
Daniel, il y a qu'une seule chose, qui est pire que mal jouer, c'est mal jouer contre quelqu'un qui joue mal.
C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis fait sortir. Ça m'a énervé. Il y avait trop longtemps que je m'énervais pas à une table de poker. Moi qui étais toujours.
Pourtant, ça commençait bien. Tu nous envoies un message, tu dis je suis en train de chatter.
Mais tu sais, c'est souvent comme ça le poker.
Ah ouais.
C'est soit ça commence bien, ça finit mal, soit ça commence mal, ça finit bien. Flavien Guénan est avec nous.
Eh oui, bonsoir. Salut, champion.
Alors, joueur, je le disais, coach, kill tilt.
Eh oui.
Une équipe qui marche.
Ouais, vous avez déjà reçu pas mal de kill tilt.
Ben, on a reçu, les fondateurs.
Et si on les a reçus, ça veut dire quoi?
Ils vont gagner,
c'est que ça marche.
Eh oui. Il est venu la veille, c'était avant de partir même. C'est avant de partir
avant
à Vegas.
Partir à Vegas,
ouais, ce qu'il nous avait dit qu'il partait à Vegas.
Ok, bah, je vais peut-être partir demain. Alors.
En face de toi, parce que ce plateau n'en finit plus.
Le goal.
Et là, vraiment, nous avons une légende. Le plus grand club du monde.
L'anti-brésilien. Celui qui
Pourquoi l'anti-brésilien?
Parce qu'il a mis des vents à des brésiliens, tu vois.
Ça, c'est là, on voit que ta culture foot, elle est.
Pourquoi?
Bah, parce que c'est quand on a un seul souvenir.
Ça suffit! En France, ça suffit!
Quand on en a un seul, ça veut dire qu'on connaît pas assez. Bernard, ça n'est pas que ça.
Non,
on ne peut pas résumer Bernard à ça.
Oui, mais tu as toujours l'employé du mois.
Bernard Mendy, joueur de poker, monsieur. Avant tout.
Merci.
Maintenant. Salut Bernard, comment ça va?
Bonjour, bonne année à tous, surtout la santé, à vous et vos proches.
Attends, il m'a expliqué pendant 20 minutes pourquoi il avait tiré le pénalty contre Lens quand même, parce que j'ai toujours pas compris.
Déjà, pour moi, c'est le numéro 1.
Il n'est pas là d'ailleurs.
Jérôme. Il ne travaille pas le dimanche.
Excuse-nous, Jérôme.
C'est dégueulasse.
Il ne travaille pas le dimanche. Donc, déjà, ça, c'est mon souvenir numéro 1 de Bernard.
Et avec le vélodrome.
Content d'être là, en tout cas, avec ce beau plateau.
Eh oui.
Et oui. Et toi aussi, c'est une année poker parce que tu trouves un joueur. On n'est plus à l'époque du King de Cabourg. Mais il y a
d'ailleurs ton canapé
King du circus. J'avais oublié ça. Oui, avec une belle année 2023 comme Mundia d'ailleurs. Vous pourriez marcher main dans la main.
Moi, j'ai fait 22, 23 moi quand même.
Mais il a fait quelques.
Non, mais il a fait de sacrés perfs.
Une dizaine d'ITM cette année. En 2023
À peu près.
5 tables finales.
C'est ça.
Ah oui, non, mais là.
Ouh là là.
On s'améliore.
Ça, il manque les WSOP hein, quand même.
Pas tout au Circus.
Circus, Élysée.
Élysée
Club, ouais, les clubs Montmartre.
On va pas les citer, sinon ils vont s'enflammer.
Ah non, il faut citer nos amis qui organisent des belles parties. Oui,
exactement.
C'est vrai.
Le cadre est super. Évidemment. Mais ça touche tout. Il manque plus que toi, un petit peu, Daniel, parce que.
2023,
ouais, il faut quand même que tu.
Pas de Vegas.
Si non, tu cherches. 2024, tu n'auras pas
de Vegas. Si tu cherches pour 2023, des cours,
je suis là.
Si tu veux des cours, je suis là.
Écoute, sans t'offenser, le prends pas mal, sachant qu'on a Flavien Guay.
Si ça ne te dérange pas,
je le regarde. Je le regarde, je prends des cours avec lui. Et si tu veux, je t'en donne.
Greg, on est au terme d'une année. Pour toi, ça reprend. C'est presque une routine. Mais WSOP, on sait que c'est une énorme machine. C'est sans arrêt une pression qui revient. Cette année, vous avez ajouté quelque chose dont on a beaucoup parlé tout au long de l'année 2023. Quelque chose au calendrier qui a été ce gros beau tournoi. Putain, cette belle série de tournois, le WSOP Paradise aux Bahamas. Ça s'est terminé le 14 décembre. On n'a pas fait le bilan encore ensemble. C'était sur une fin d'année ultra chargée en termes de poker, parce qu'il y avait les Bahamas, parce qu'il y avait Vegas chez toi, mais c'était ton concurrent, ton voisin d'en face, WPT, qui organisait un gros truc aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de cette fin d'année ?
Non, franchement, on a été ravis, on avait beaucoup de pression, on nous annonçait de l'overlay et voilà, que ça allait être très compliqué, mais je suis content de voir que tous les événements ont marché, les trois. Donc ça, je pense que c'est top pour le poker. Et puis nous, évidemment, on avait une grosse pression sur le main event où il y avait 15 millions garantis pour un tournoi à 5 000. On a atteint la garantie. Et puis surtout, le tournoi à 25 000, qui a eu plus de 500 joueurs, juste pour remettre en ordre de grandeur, c'est beaucoup plus gros que celui qu'on a à Vegas. Donc avoir en décembre aux Bahamas pour un premier tournoi, voilà, un tournoi de tous les plus grands joueurs du monde qui étaient là, et bah, c'était super. Donc on est ravis. Et puis voilà.
Qu'est-ce qui vous a pris?
Il y a plusieurs paramètres.
Qui est tombé comme ça, là, comme une grande folie.
Atlantis, c'est un partenaire de César depuis des années. Par exemple, quand tu as une carte de fidélité.
César, c'est le groupe César.
Qui appartient les WSOP.
Un groupe César, monstrueux de chaînes hôtelières et de casinos.
Par exemple, quand tu as une carte Diamond à Vegas, elle est valable à Atlantis aux Bahamas.
Même la rouge?
On l'a ça nous.
Non, il faut beaucoup de zéro et un 8 couché.
Mais donc c'était un partenaire de César depuis des années. Puis il y avait le tournoi de PokerStars depuis des années qui se passait là. Et depuis que c'était terminé, le PCA, les Atlantis nous proposaient de venir chaque année. Et on se posait la question de le faire.
Dans ces cas-là, c'est quoi? C'est l'hôtel qui demande à une organisation comme WSOP qui dit vous voudriez pas organiser un énorme tournoi chez nous?
Et depuis des années, on pensait au WSOP hiver, un peu comme les Jeux Olympiques. On se posait la question de le faire à Vegas. Et puis est venue cette alternative.
Parce que pour toi, si on comprend bien, le Vegas estival, celui qu'on connaît tous par cœur, ce qu'on a vu là, c'est ce qui pourrait devenir le pendant hivernal.
Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est l'idée en tout cas.
D'accord.
C'est l'idée, ouais. Parce qu'en fait, en hiver, les joueurs veulent aller à des endroits où il y a du soleil.
Ouais.
On avait besoin d'un partenaire comme GG qui mette les garanties et la puissance derrière pour atteindre ça. Et voilà, quand on a ajouté tous ces paramètres, ça a fait qu'on a dit, c'est peut-être l'année où on le fait. Malgré ce que les gens ont dit, on a essayé de faire des dates qui soient pas trop en frontal avec ce qui se faisait, ce qui permettait aux joueurs de faire les différents tournois. Et voilà, ça a été un succès. Donc on est ravis. Et puis j'espère vous y voir l'année prochaine.
Quoi. Justement, tu parlais d'overlay tout à l'heure. Alors je sais pas si on peut prévoir un overlay. Ça, je sais. On a reçu bien évidemment Hermans qui nous avait dit qu'on sait qu'il y a eu un overlay de 2,5 millions. Comment vous faites vous justement pour éviter ça?
Alors on peut jamais savoir à l'avance, c'est très difficile à calculer. Maintenant, GG, ils sont très très forts pour calculer ce genre de choses. Nous, on a notre expérience. Pour être honnête, quand on a annoncé les garanties, nous, on avait un petit risque d'overlay. Mais après, on a mis tout ce qui était possible pour l'éviter et on a réussi. Mais tu sais jamais à l'avance. Mais après, voilà, c'est à toi d'estimer en fonction de ce buy-in et voilà, et de ta marque, ce que t'es capable de faire.
Hein. Après, c'est pas simple parce que là, on parle de Bahamas, c'est-à-dire c'est une île, Caraïbes, faut y aller. Alors, c'est pas genre on organise un tournoi et hop quoi. Tiens, c'est.
Ouais,
alors,
puis c'est. Par rapport à Vegas, il y a quand même beaucoup d'avantages. T'as beaucoup de personnes qui peuvent pas voyager aux États-Unis. On l'oublie encore. Il y a pas de visa pour aller aux Bahamas. D'accord. C'est très simple.
Au niveau. À 18 ans, on peut jouer.
À 18 ans, voilà, 18-21, voilà. T'as aussi tout ce qui est au niveau fiscal, etc., où c'est beaucoup plus facile pour les joueurs de transférer de l'argent aux Bahamas qu'aux États-Unis. Donc voilà, il y a et puis il y a le côté familial. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir avec leurs femmes et leurs enfants. Ils ont pas trop envie d'aller à Vegas. Les Bahamas pendant 10 jours, c'est pas mal, quoi.
Ouais, mais néanmoins, c'est quand même un voyage. Les Bahamas, c'est cher. Est-ce que tu dirais, ça tombe bien puisque Apo est à côté de toi, que tu organises en dehors de Vegas, ce qui est très particulier, un poker d'élite pendant que Apo, lui, parle du poker pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent jouent les tournois d'Apo et ceux qui nous écoutent rêvent des tournois de Greg.
Ouais.
C'est un peu ça finalement.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'était voilà, c'est des buy-in et des budgets un peu plus élevés. Maintenant, Gigi, ils ont envoyé 1000 qualifiés. Les qualifiés, t'imagines bien que c'était pas des gens forcément très aisés.
Ça correspond à ce que j'appelle le rêve.
Voilà.
Ça veut dire que tu te qualifies et tu rêves d'un coup parce que on va te payer le voyage et tu vas aller te mêler aux professionnels. T'es le poker de un peu la Champions League pendant qu'Apo il fait la Ligue 1 toutes les semaines où on va jouer dans ces tournois qui rencontrent chaque semaine des succès
énormes. Sans être péjoratif,
énormes.
Mais oui, c'est le principe un peu d'une pyramide et il y a besoin de la base pour faire marcher les gros événements.
En parlant de succès, vous avez fait le record, bien évidemment, l'été dernier, on y était, bravo. Quand on arrive à atteindre un record absolu comme ça, est-ce que l'année suivante, vous avez envie de faire plus ? Quels sont les moyens que vous allez mettre ? Est-ce que vous voulez faire, je ne sais pas, vous avez fait pratiquement 10 000 joueurs ?
On a fait 10 043.
10 043. Est-ce qu'on vise les 12, les 13 ?
Le problème, c'est que le but, c'était de battre le record, donc c'était 8 007. Et comme le gars qui bat le record de soit en hauteur, l'idée, c'était de dire, on va essayer de le battre, mais on va pas essayer de faire 10 000 tout de suite. Si on peut se caler à 9 000 quelque chose, ça serait déjà génial. Et ça nous laisse une marge de progression. Et puis finalement, tu contrôles pas. Tu dépasses 10 000. Et puis, t'atteins le chiffre dont tout le monde rêvait. Maintenant, voilà. Le but, c'est de pas redescendre en dessous des 10 000 déjà. Je pense que c'est l'objectif numéro un. Et puis après, normalement, il n'y a pas de raison qu'on fasse moins d'une année sur l'autre, hein. Encore une fois, si on travaille bien.
C'est pas du tout les mêmes sommes. Et je vais interroger également un peu là-dessus. Mais c'est comme on dit dans le foot, c'est pas le même maillot mais la même passion. C'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes tournois, mais c'est le même stress, c'est la même pression quand on est organisateur de tournois.
Oui, c'est la même chose, mais on essaye toujours de faire plus. Là, par exemple.
Mais on est toujours en train de regarder les chiffres, comme le producteur de cinéma qui le mercredi regarde les films qui sortent en salle. Vous guettez le nombre d'inscrits, le nombre de.
Sur sa tablette. Le problème, c'est qu'on peut pas contrôler. La preuve, c'est qu'à Circus cette semaine, je suis à plus 30. De 1003, on est passé à 1302 joueurs.
Ben, ça va.
Et là, pour l'année prochaine, il va falloir que je trouve des salles pour le faire.
Et ça, c'est un bon problème. Son problème, c'est toujours les murs. C'est pas les joueurs.
Je pense. Hein.
C'est les murs.
Il va falloir acheter Carrefour. Non, mais pour le coup, comment on fait justement quand on est victime? Alors, t'es pas victime de ton succès parce que Apo, ça fait des années que tu travailles. T'es l'un de ceux qui a créé le poker populaire et amateur, en tout cas au buy-in.
En tout cas, je suis le premier.
T'es le premier. Et là, on voit qu'il y a une ascension qui est quand même monstrueuse. Tu vas faire tes premiers WSOP, on va en parler justement. Tu t'es associé à Winamax, qui est quand même quelque chose de monstrueux. À quel moment on se dit, si on veut passer l'étape au-dessus, qu'est-ce qu'il faut ?
Il faut déjà réussir les deux événements. Là.
Il y en a un qui a déjà été réussi, c'est à San Remo.
Oui.
Voilà.
Il faut réussir celui de Paris.
Novembre. À Jean-Bouin, c'est bien ça.
Il faut réussir celui de Paris. C'est le plus important.
Comment ça se passe ? Vous vous connaissez dans le monde international du poker. Vous êtes deux Français. Tu prends toujours ça comme une... En fait, tu vas voir Greg pour lui demander de te faire confiance pour que le tampon WSOP soit mis en association au tournoi que tu as l'habitude d'organiser et pour qu'il se dise voilà quelqu'un qui est capable de m'amener du monde, d'organiser des gros tournois et donc le tampon WSOP il est posé à San Remo au mois de novembre. Ça marche et il va bientôt y avoir. C'est lequel que tu vas gérer le prochain ?
C'est Jean-Bouin.
Jean-Bouin.
WSOP, c'est Jean-Bouin.
WSOP, Jean-Bouin, au mois de mai. Ah, et avant, je vais m'entraîner avec le Winamax.
Ah bah oui.
Je vais m'entraîner.
Ça super. Non, mais la question de Daniel, elle est super. Moi, j'aimerais ça. La connexion, comment c'est ? Parce que, effectivement, il y a énormément de gens qui viennent te voir, qui aimeraient avoir la licence WSOP circuit. Comment comment s'est faite d'abord la connexion, pourquoi ça a été validé, comment ça s'est séduit.
Mais je suis à mon cinquième WSOP avec Greg.
Oui, mais c'est la première fois qu'on vous a tous les deux au plateau et nous on ne sait pas comment c'est passé.
Non, il y a Cannes.
Avant,
il y a eu Cannes, bien évidemment.
Avant, je travaillais pour Cannes pendant 5 ans.
Qu'est-ce que tu regardes, Greg, quand tu autorises quelqu'un, pour faire simple, hein, quand tu lui dis « Vas-y, WSOP, je te mets le tampon », qu'est-ce que tu regardes après pour te dire « J'ai bien fait, ça a marché bah, ». C'est quoi qui fait que le patron des WSOP, il est content?
On n'aime pas trop partir à l'aventure avec des gens qu'on ne connaît pas ou des casinos qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on prend à peau, voilà, on a un gage de sécurité, on sait que l'événement, ça va être un succès, que ça va être bien organisé. Donc c'est important.
Oui, mais une entreprise comme la tienne, c'est énorme. Tu peux connaître Apo, tu peux lui faire confiance, tout ce que tu veux, mais jamais vous y allez les yeux fermés. Les Américains font pas ça. Ils regardent toujours. Donc au final, il y a un rendu qui est beau, il y a un cahier des charges. C'est quoi en fait?
Ah bah oui, mais
qu'est-ce qui fait que WSOP est content?
Comme dit Apo, ça fait plusieurs années qu'on fait Cannes et que je vois comment se passe Cannes et qu'on voit les autres événements qu'il fait. Donc évidemment, le nombre de joueurs est très important et il sait que maintenant je mets une pression systématique au circuit pour avoir plus de 1000 joueurs. Qui participent au main event. C'est un peu l'objectif de chaque étape. Et puis après, effectivement, il y a les retours des joueurs qui sont hyper importants. Il y a eu des événements les dernières années, pas forcément en France ou ailleurs, où les gens nous disent, il faut arrêter, là, c'est pas possible, quoi.
C'est-à-dire?
Que les retours des joueurs n'étaient pas bons. Ça mérite pas d'avoir.
Sur leur gaz.
Ouais.
Parce que quand tu vas jouer un WSOP, il faut
t'attends
que.
T'attends à quelque chose.
Voilà. Tu joues une compétition. C'est comme dans le tennis, la différence entre l'ATP 250, le 500 ou le Master 1000. Et au niveau orga.
Et pourtant, est-ce que tous les ATP sont exactement les mêmes, la même qualité d'organisation?
Non, ils sont pas dans les mêmes pays, ils sont pas avec les mêmes organisateurs, mais le joueur doit avoir un confort où il reconnaît,
Et le partenaire doit être très fort dans son pays, ça c'est très important. Et maîtriser la réglementation, ce genre de choses. Donc, on sait qu'avec Apo, il y a pas de problème.
Justement, Apo, t'attends quoi justement de ce prochain événement? Alors bien évidemment il y a Wina, mais il va y avoir aussi les WSOP à Jean-Bouin.
Oui, pour toi, Wina est partenaire.
Bien évidemment, oui. Bah oui, des partenaires parce qu'ils font les qualifications sur le site.
Voilà.
Et pour toi, un tournoi réussi, c'est quoi? C'est le nombre de joueurs? C'est est-ce que t'attends un nombre précis? Est-ce que tu attends? C'est quoi pour toi qui va être un vrai succès au-delà des nombres?
Déjà que quand les gens ils vont repartir, ils vont être contents. Qu'ils ont été bien accueillis, ils ont été bien reçus, qu'il n'y a pas eu de queue, qu'il y a eu un flux, tout se passe bien.
C'est toi, tu regardes, Bernard, toi qui es joueur, qui va dans les casinos, tu regardes l'organisation, c'est quelque chose qui compte énormément pour toi, au-delà du tournoi auquel tu participes. Qu'est-ce qui fait que tu es content d'aller jouer? Au-delà du fait qu'on est content, ça si on gagne ou pas ou quoi. Hein, qu'est-ce qui fait que pour toi, un événement est réussi quand tu y participes?
En termes d'organisation, ça c'est sûr. C'est vrai que quand on est joueur et qu'on fait la queue pendant des heures, c'est un peu compliqué.
Ça c'est le premier élément.
Ouais, c'est le premier
élément. C'est la fluidité du.
Et après aussi, les gens autour, la bienveillance. Mmh. C'est aussi important, tu y vas pour jouer tu perds de l'argent mais tu joues au plaisir.
Ouais.
Mais et généralement avec Apo ça se passe plutôt bien.
Après l'attente parfois c'est pas forcément la faute aussi du club parce que même quand on va au WSOP,
c'est généralement c'est toujours ce qui revient comme critère d'organisation.
Oui.
C'est quand même curieux parce que vous faites des organisations qui sont des barnums énormes et le commentaire, la chose où on fait attention, je l'ai vu à Vegas, maintenant je suis venu 3 fois, je le vois dans les tournois d'Apo, les gens c'est l'attente.
Oui, on est tellement pressé de jouer en fait. Ouais, mais c'est aussi la faute des joueurs. Il y a aussi la faute des joueurs parce qu'ils se prennent toujours au dernier moment. Ils savent très bien qu'il va y avoir un flux qui est monstrueux. D'accord, on peut avoir la meilleure des organisations. Effectivement, quand il y a des gens qui viennent en retard, alors forcément, alors là, on parle des WSOP, donc forcément, c'est à la hauteur des États-Unis. On l'a vécu. Et merci Greg, en ce moment que t'étais là.
Donc, je voudrais dire une seule chose, c'est que pour le WSOP de Paris.
Oui.
On a pris les 3 étages pour mettre un maximum de tables, pour accueillir un maximum de joueurs en 7 jours.
Ah, mais vous conseillez aussi aux joueurs d'aller s'inscrire bien à l'avance pour éviter...
L'avantage qu'il y a avec ce WSOP, c'est qu'ils peuvent s'inscrire dans toute la France, dans tous les casinos du groupe Partouche.
D'accord, ok.
Donc, ouais, on en revient à ça, c'est la fluidité, le fait de faire...
42 casinos du groupe Partouche,
d'accord, okay.
Ils peuvent accueillir les joueurs pour... prendre leur buy-in.
Leur buy-in, bah, c'est génial ça.
Comme ça, c'est propre.
Mais c'est inédit ça, parce qu'à l'époque, ça.
Mais non, c'est le partenaire qui a les 42 casinos et avec qui je travaille.
Ça, c'est génial.
Voilà, nouvelle idée. Flavien, toi aussi, tu mets ça en 1 quand on parle d'organisation de poker. C'est souvent ce qui revient, mais il doit bien y avoir d'autres choses qui font qu'un tournoi soit réussi.
Je crois que le numéro 1, sans conteste pour moi et pour beaucoup d'autres joueurs, ça va être le niveau des croupiers, le niveau des TD, le niveau d'organisation, tout simplement. Je crois que c'est pour moi le numéro 1. On a tous subi des rulings un petit peu bizarres parfois, ça peut être très frustrant, et on a tous subi un côté, un truc qui se passe pas bien, ça nous fait sortir de notre tournoi, un croupier qui distribue moins bien qu'un autre, des choses comme ça, c'est pour moi l'élément le plus important.
Ah, bah, tu vois, ça te parle, ça, le croupier qui est bon, qui est pas bon?
En règle générale, je suis très indulgent.
Moi aussi. Alors, c'est peut-être un truc de joueur pas
à Vegas. Honnêtement, c'est pas de l'indulgence, parce que je suis extrêmement indulgent et très soft avec ça.
Oui, je peux prendre des bad beats qui font très très mal.
Oui, mais ça, le croupier, il
mais je te jure, je te jure que le croupier, des fois, t'as envie de le rentrer dedans, mais franchement. Je suis toujours et les gens diront à table que je suis l'un des rares à être sympa et ouvert.
Mais c'est pas ça, je crois que tu veux dire.
Le but, c'est pas ça de se plaindre. Le but, c'est pas de se plaindre pour un croupier si on a perdu un coup, etc. C'est de se dire, si je joue un tournoi toute une journée, par exemple, je vais prendre l'exemple des WSOP, tu joues tous les jours, t'enchaînes, t'es fatigué, tu fais des journées qui sont très longues, bah t'as pas envie d'avoir à recompter après le croupier, après 8 heures de jeu où tu dis, ah tiens, peut-être qu'il s'est trompé et en fait, bah ça va tout changer la main, ça va tout changer le pot, ça va changer complètement l'action. Et il va arriver où il y a des tournois, et je cite personne pour que je reste général, et on va avoir besoin d'être focus, de garder un œil sur le pot, on va avoir besoin de garder un œil sur certaines choses. Si on a ça en plus...
Et forcément, les tournois rencontrent de plus en plus de succès, il y a de plus en plus de joueurs, donc il faut de plus en plus de croupiers, il faut les former.
Il y a une pénurie, bien évidemment.
Il y a une pénurie, Greg ?
Ah, bien sûr, c'est la guerre. Je prends la réflexion de Flavien pour nous, mais on sait le problème, c'est qu'on a besoin de plus de 1200 croupiers.
C'est monstrueux.
Probablement cette année, plutôt 1003. Voire 1004. Le problème, c'est qu'il n'y a pas 1300 bons croupiers aux États-Unis avec une autorisation de travail. Donc oui, aux Bahamas, on avait les meilleurs croupiers du monde. Trouve une personne qui s'est plaint des croupiers du Bahamas, ça n'existe pas. Non, mais en revanche, à Vegas, on est obligé de prendre des gens qui ont moins d'expérience. Et malheureusement, des fois, ça tombe sur des tables où il y a des joueurs plus expérimentés. Hey.
Et qui le vivent mal et qui te font le mauvais retour, qui te met dans la merde.
C'est voilà.
Je pense pas que ça mette dans la merde. Hein. On l'assume.
L'organisateur, ce qu'il aime pas, c'est avoir juste un mauvais retour, que ce soit pour l'accueil, le croupier, ça n'a pas marché. Et si ça tombe sur un joueur pro confirmé ou un de ses retours à lui, ça va faire
une vidéo sur les réseaux.
Il va faire une vidéo.
C'est arrivé.
Attention, ta question c'est pas est-ce que ça te déplaît quand les croupiers font des erreurs, c'est comment tu juges un tournoi. Moi je juge sur là-dessus.
Voilà.
Oui. Je vais pas me plaindre pour autant, mais je en prends en compte quand je.
Bien sûr. Mais non, moi je.
Après il y a aussi les joueurs qui sont irrespectueux aussi avec les croupiers. Ouais. Je pense que l'erreur est humaine.
Bien sûr.
Que ça soit jeune ou un peu plus expérimenté, on en fait tous les jours, même dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'à un moment donné, quand le croupier fait des erreurs, bah tu lui tombes pas dessus comme
c'est
ça.
C'est comme un arbitre un peu.
Ouais, mais c'est exactement ça.
Ouais, mais l'arbitre, il y a pas beaucoup de joueurs.
Sauf que l'arbitre,
Jean Bernard.
Non, on est d'accord.
L'arbitre, il fait une moitié d'erreur.
Je trouve que ça serait intéressant que les croupiers puissent mettre un carton rouge. Tiens, bah tac.
Ouais,
tu sors de la table, plus besoin de t'aider.
Ah bon, il y a une pénurie de croupiers.
Plus on fait de tournois, automatiquement, plus il y aura plus de manque de croupiers. Et puis, pour les former, on ne peut pas les former en une semaine.
Hein. Ah oui.
Il faut de l'expérience.
Ah oui, non, mais...
Nous, on a la chance de faire beaucoup de tournois, donc on les envoie aux petits tournois de 40 joueurs, 50 joueurs pour faire la main, mais tôt ou tard, de toute façon...
Heureusement que ces jeunes croupiers, ou peu importe, ces croupiers qui sont pas confirmés, sont là quand même, parce que s'ils n'étaient pas là, il y aurait une queue monstrueuse, on serait encore dans la vallée de la mort, tu vois. Et encore, heureusement qu'ils sont là, parce que...
Et c'est ce que je dis à Vegas, si tu as pas ces croupiers débutants, bah, t'as moins de table et t'as moins de table, plus, en fait.
Exactement.
Allez, on fait une première pause.
Bah oui, on rentre de l'oseille.
Show et on revient tout de suite.
Pa
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show. On est là avec Mundir pour cette première émission 2024. Et on reçoit Greg Chauchon, vice-président des WSOP. Apo Chantis, le meilleur organisateur de tournoi du monde, de France.
Bah justement, j'avais posé une question, c'est par rapport au monde surtout, mais là, d'Europe, on peut dire oui, ça c'est sûr.
Flavien Guénan est également avec nous.
Le coach
de
Kill Team. Le player.
Et Bernard Mendy.
Eh oui, le Shark.
One of the Legends of PSG.
Ah oui, direct. Poker Saint-Germain, eh oui.
Tu as le programme, Bernard. Tu as des tournois en vue, là, bientôt. Tu ne veux pas venir à Marrakech avec nous, la WSOP. C'est une belle marque. Hein.
À voir, à voir.
Dans 15 jours pile. Mundir y sera, il a un titre à défendre. Ah non, mais ton titre, il n'est pas dans les WSOP. C'est pas la, c'est
pas la même encore, chose. Il n'a pas de bague encore.
C'est pas la même chose, attention.
T'inquiète, ça vient cette année, t'inquiète.
Ah. On verra.
Pourquoi tu l'as drivé?
Je sais pas, un petit feeling. Cette année, ça va être bon pour me dire.
Ah bah ouais, oh. Bah ouais, parce que je prends des cours avec Flavien, effectivement.
Il t'a appris à faire gagner les flips, non?
Ah,
c'est... Ah non, mais ça...
Il va falloir, ça, non. Y en a d'autres pour ça.
Non, c'est pas... Ah merde, j'allais dire une bêtise, mais non, je me suis retenu.
Greg, tout à l'heure, on parlait du Paradise Bahamas, qui était en gros le pendant hivernal du WSOP estival. Évidemment, c'est, la pression de l'extérieur, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a les deux gros événements maintenant... mais tout se prépare tout au long de l'année. T'es déjà là maintenant, premier jour de janvier. Vous êtes déjà sur mi-mai quand ça va démarrer.
Ouais, depuis un moment déjà, puisque il faut finaliser le programme.
Pourtant, c'est un rôle. Vous savez où ça va
se
jouer.
Oui, mais le programme est très important. Et tu sais très bien que tout le monde attend notre programme pour.
Pourquoi le programme c'est si important?
Ah, c'est hyper compliqué. Un jour, on en parlera. Mais
Pourquoi un jour on en parlera? On peut en parler.
Ouais, c'est très long et très compliqué. Et Jack Eiffel, c'est probablement la seule personne au monde qui est capable de faire ça, parce que c'est. Il y a un nombre de paramètres, en fait.
Ouais, parce que quand le calendrier se chevauche, tu te dis le joueur soir de ce tournoi, il a envie d'aller à celui-là. C'est vrai que ça doit être un casse-tête énorme.
Plus de 600 tables maintenant, 1200 croupiers, c'est très compliqué. Il faut voir ce qui marche, ce qui marche pas, comment ça se chevauche, les heures de. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. On en parlait avec Apo l'autre jour et les World Series et comme peut-être l'événement de Winamax au centre des expositions, ça va être pareil. Oui. C'est plus des conventions que des tournois de poker, en fait.
Oui.
T'organises une énorme convention, un énorme salon en fait, plus qu'un tournoi de poker. Et on a la même problématique, voilà. Donc quand on parlait des gestions des files d'attente ou du programme, c'est exactement ça. Il faut pas qu'il y ait trop de monde au même moment, au même endroit.
Tout se fait toujours avec le retour des joueurs. Vous êtes beaucoup à demander sur le terrain comment
ça se passe. De plus en plus. Et le programme, on l'envoie à beaucoup de monde en fait.
Ah, ouais. Au préalable.
Ouais.
Pour que des joueurs pros, genre un mec comme Negreanu, j'imagine, il reçoit tout avant.
Il en fait partie.
Bah, évidemment, ça, on était sûr.
Ah oui.
Mais il y en a beaucoup. Il y en a
pas. C'est pourquoi moi je le valide pas avant.
Pour ton ITM de l'année dernière. Le tournoi est toujours là.
Ne serait-ce que grâce à cet ITM, je devrais valider le programme.
Ah, mais ouais.
On l'a pas rebrandé Daniel Riolo encore, mais on y pense.
Quoi, il n'y a pas une salle? T'as pas fait une salle encore?
La Danny's Room.
Ah, le jour où il y a la Danny's Room. Ah.
Mais que ça. Ah, heureusement qu'il pète pas un tournoi, parce que sinon il va falloir qu'il soit le patron du César, se le dire.
Mets des canapés.
Ah non, mais c'est clair.
Ah oui, donc là, et le programme, il est, quand tu disais, il est déjà fait?
On est en train de le peaufiner et on veut l'annoncer prochainement. Ouais.
Non, les dates déjà sont posées.
On a annoncé les dates, mais on n'a pas annoncé le programme.
Les dates ont été annoncées.
Les dates et le main. Ouais.
Voilà, ok.
C'est tout. Voilà. Mais le reste, après, t'imagines bien, il y a des nouveautés, il y a des choses qui vont disparaître. Donc, on est en plein dedans là.
Est-ce que l'organisation est perturbée du fait que cette année, il y a l'Euro et que je pourrais pas être là?
Mais tu pouvais être là. Avec,
on va pouvoir le mettre sur les grands écrans.
L'Euro démarre le 14 janvier. Avant, ça aura démarré.
14 janvier.
Vous auriez pu corriger de vous-même.
Mais Bernard, on veut faire la première partie.
Bernard, il avait compris.
On va pas te corriger toi, quand même, non?
La première partie, pourquoi tu viens pas?
C'est pour réfléchir.
Ah oui, ouais.
Il se passe quoi avant l'Euro?
Mais attends, mais
l'Euro, finale de la Ligue des Champions le 1er juin.
Mais tu peux pas faire un truc là-bas avec Internet et tout ça, machin.
Non, finale de la Ligue des Champions, c'est ici, c'est du sérieux, hein.
Et il te reste 15 jours.
Okay. Ouais, faut voir. Il y a des beaux tournois à ce moment-là, si tu me mets un beau tournoi à ce moment-là.
Si tu mets. Ah, ce croqueur!
Si tu me mets celui de l'année dernière!
Ah, bah celui-là, il est sympathique, celui-là! Celui-là, il est sympathique!
Je me souviens même plus c'est quoi le tournoi que j'ai.
Ah, il était bien, je crois que c'était un 1000.
C'était le 1000, ouais.
C'était un 1000 et quelques, ouais. C'est ton premier d'ailleurs. Ton premier 1000. T'as beaucoup transpiré.
Et Gilbert encore là pour me financer.
Gigi. C'est Gigi en plus.
Je suis pas stacké.
Putain, il a fait gagner de l'argent un milliardaire, sans ma vie.
Voilà. Et je prends Flavien pour me coacher.
Ah ben là, tu vas vite comprendre.
Flavien, tu sais le nombre de coachs qu'on reçoit dans les RMC Poker Show? Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Tout le monde dit t'es formidable. Mais moi, je veux comprendre pourquoi t'es formidable.
Ouais.
Parce qu'on reçoit que des coachs formidables.
Pourtant, il y a beaucoup de coachs qui sont pas formidables. J'en connais un paquet.
Moi, ce que je vois de formidable, je vois ton parcours, au-delà de tes résultats comme joueur, c'est ta proximité avec notre pote Pierre Calamusa.
Bah oui, c'était son coloc.
Dont tu as été le coloc, c'est tout tes résultats. Mais après, évidemment, c'est pas péjoratif, faut pas, tu le prends mal, mais à chaque fois, on se dit, ah, il est coach, mais il y avait déjà lui. Il y en a plein des coachs poker. Il y a autant de clients que ça. Pour les coachs poker, il y a autant de gens qui veulent être coachés.
Je sais pas s'il y en a beaucoup. Je sais que moi, j'ai trop de demandes comparé au temps que j'ai à donner. Donc, de toute façon, je suis
overbooké.
Je suis overbooké. Donc, de toute façon, je limite mon nombre d'élèves. Mm-hmm. Après, ça dépend parce que tous les coachs n'ont pas la même fenêtre médiatique, entre guillemets. Ils n'ont pas tous le même affichage. Moi, je travaille avec Winamax pour les tournois que je commente. Il y a Kiltit où on fait plein de vidéos ensemble et tout. Donc, forcément, j'ai pas le même affichage que les autres. Et puis après, il y a aussi autre chose qui parfois est de la chance aussi. Il faut le dire ce qui est, c'est les élèves que tu as qui font des perfs. Forcément, ça joue.
Ah, mais de toute façon, pour un coach, c'est exactement comme au foot ou au tennis. Hein.
Exact.
Tu drives l'équipe, si elle a des résultats, ça te fait ta promo.
Et alors, je nuance
toi, cite-nous un petit peu.
Vous avez reçu ici plein, de toute façon, des gens qui ont fait des perfs que
non, mais je sais bien, mais
ton parcours.
Cite-nous. Deux, trois mecs, tu dis, lui, je l'ai coaché quand il a gagné ça. Lui, je l'ai coaché quand il a gagné ça. Fais-toi mousser. C'était cinq minutes où tu peux te salonner tout seul.
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y en a très récemment que vous avez eu. Le vainqueur de Million Event, c'est Robin Chauffe-Qui-Peut.
Oui, Chauffe-Qui-Peut. Ouais.
Que j'ai coaché encore extrêmement récemment, même encore en ce moment, qui a gagné le Million Event. Qui a gagné
220 000. J'ai vu la vidéo, elle est super.
Et après, il y a plein de gens qui jouent des lives, qui font des perfs, mais aussi. Si je coach quelqu'un qui perd 3 ans après, tu vois, quel est mon impact réellement dans sa progression? Est-ce que c'est grâce à moi?
Je te le demande,
comme ça, et je peux pas quantifier. Il y a des vainqueurs répétés que j'ai coachés il y a 8 ans, il y a des vainqueurs répétés que j'ai coachés il y a 4 ans, et en fait, je sais, enfin, mon impact est probablement faible malgré tout, mais j'ai coaché un certain nombre de gens qui ont gagné des WSOP, des EPT, des WPT, un petit peu tous les tournois qui se font en réalité. Donc, et probablement, j'ai coaché beaucoup plus de joueurs qui ont gagné plus que moi au poker.
Mais ce qui est intéressant dans le parcours de Flavien, Dan, c'est que au-delà de les qualités de coach qu'il a effectivement et sa pédagogie, c'est que donc c'est un jeune grinder, bien évidemment, il était avec Pierre dans les magnifiques années. Il a tout raflé pratiquement sur internet parce qu'il est quand même le recordman des Winna Series.
Oui. Non, je l'étais, je le fus.
Oui, tu le fus. Non mais
à l'époque où j'étais pro, j'étais le Français qui avait le plus de titres au moment où j'ai arrêté de jouer grosso modo. Ce qui du coup n'est plus du tout.
D'accord, pareil. Mais en tout cas c'est un des titres. En tout cas c'est un des titres. Mais et à un moment tu dis quand t'es passé en live, bon t'as bien évidemment t'as été avec Eurosport Poker puis Unibet et tu dis que ces années les résultats ont été décevants. Comment tu l'as encaissé ça?
Bah, encaisser, tu sais, c'est un peu quand c'est un peu comme la quête d'une chimère pour moi. Il y avait ce truc, un one time, on appelle ça, et tu joues des tournois live, même quand tu joues beaucoup, t'en joues une trentaine, 40. Moi, j'étais pas du genre à saute d'un tournoi, je vais en jouer un autre, tu vois. Je saute un tournoi, j'attends le lendemain, je chill, je vais faire un resto, je vais faire autre chose.
Ah, tu fais pas l'enchaînement, il y a plein qui font ça, ils sautent et bim, tu les trouves
J'y arrivais pas, donc je le faisais pas. Et à partir de là, tu joues 30 tournois dans l'année peut-être, 40 grand max, parce que je jouais online à côté, parce que j'avais d'autres trucs, j'avais déjà des groupes de coaching, des dizaines d'élèves à l'époque, tu vois. Et à partir du moment où tu joues 30 tournois dans l'année, qu'est-ce que c'est 30 tournois? Tu joues 5 années de suite, ça fait 150 tournois. Tu peux jouer online et perdre 500 tournois sans que ce soit normal. Donc en fait, si t'es un peu froid et que tu regardes ça mathématiquement, tu dis, je peux jouer pendant 5 ans et ne pas gagner de tournois majeurs. Et tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à jouer pendant 5 ans? Moi, je l'avais plus l'envie. Donc à partir du moment où j'avais plus l'envie, j'ai arrêté de jouer des tournois en live. Et je m'en porte très très bien. Je joue des tournois quand j'ai envie d'en jouer. Et maintenant, je coach. C'est un truc. J'ai juste beaucoup plus de plaisir à enseigner à quelqu'un que à jouer à l'heure actuelle.
T'as déjà pensé, Bernard, au poker? C'est une vraie passion pour toi quand même. T'adores ça. Hein. T'as déjà pensé à parler avec un coach, à te faire driver un petit peu avant un tournoi?
J'y réfléchis de plus en plus pour performer et je regarde pas mal d'émissions sur internet.
Ah, tu regardes?
Ouais,
donc,
je regarde
déjà,
énormément de matchs de foot.
Une démarche de progrès chez toi déjà.
Ouais, je regardais énormément de matchs de foot et du coup beaucoup aussi d'émissions de poker. Faut voir à l'avenir.
Non, mais il y a aussi une forme de volonté, c'est-à-dire que pour faire la démarche, pour avoir un coach, c'est une prise de décision qui est ultra importante.
Ah bah c'est que tu veux rendre ton jeu plus sérieux déjà.
Non, bien évidemment, mais il y a la formation, le fait d'être intéressé et de voir du contenu en est une, mais quand t'es en tête à tête avec le coach et qui, ou vraiment, il te fait une prise de sang, il te dit exactement ce qu'il y a, quoi, tu vois.
Il te met le nez dans ce qu'il fait.
Exactement. Donc, et forcément, ouais, parce que, moi, par exemple, moi qui prends des cours avec, bien évidemment, avec Flavien, je peux te dire que parfois, ma tête, elle explose.
Ah, je savais pas ça que tu prenais des cours avec Flavien.
Ouais, je suis un cachotier.
Tu vois, et ça se passe comment? À distance?
C'est
quoi la consultation une fois par semaine?
Alors, on a déjà fait deux bonnes, déjà, mais ensuite, bien évidemment, j'ai mon boulot, tout ça, machin. Mais on programme la troisième, là, c'est ça, m'en sous peu. Et puis, je note tout, il m'envoie tout sur vidéo avec pas mal de choses. Je dois retenir, je prends des trucs. Enfin, et puis, il a une manière d'expliquer qui moi, en tout cas, je suis pas un génie.
C'est le métier d'un coach. Hein, t'as à côté de toi quelqu'un qui en a connu, des bons, des pas bons, qui lui-même l'a été. Coach, c'est un métier.
Oui, mais à la différence, si moi, je regarde du foot à la télé, je vais pas progresser. Tu comprends? C'est-à-dire que là au poker, si vraiment il veut, si maintenant par exemple le frérot il veut passer un step au-dessus, il faut qu'il se mette avec un coach.
Non mais ça je pense qu'il l'a compris, mais ce à quoi je faisais allusion c'est qu'il sait ce que c'est que d'avoir face à lui un coach que lui va trouver bon, mais c'est toute l'équipe qui doit le trouver bon, donc là on est dans un rapport individuel, donc c'est un petit peu différent, donc c'est la façon dont le coach va te parler, la façon dont il va transmettre le message, et quand toi tu veux être coach, ce que Bernard a également fait, c'est comment toi tu enseignes et tu parles et quel rapport tu crées avec la personne que tu veux faire progresser.
Non mais justement,
c'est un métier c'est très compliqué.
Il y a un lexique qu'ont les coachs. C'est-à-dire qu'avec Fabien, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a si ça bouillonne pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois. Donc pour le coup, moi, il faut que je sois ultra focus. Et c'est vrai que pour passer ce step-là, il faut en manger. Tu vois. Et puis il disait tout à l'heure qu'il était très pris. Et c'est vrai qu'il est très pris. Donc il faut dégager du temps.
S'il est très pris, c'est qu'il a des gros tarifs. J'ai une grosse finale pour vendredi prochain. Là. J'aimerais savoir si, si deux séances.
Tu aurais dû me contacter, Yassine.
Hein, garde ton argent.
Ah oui, d'accord, ok.
Bah ouais, non mais il n'y a pas.
Vendredi, j'ai une grosse finale, oui.
Ah ouais, directement.
Un circuit
finale.
Parallèle.
Un circuit parallèle. Un
circuit pas très connu. Un circuit parallèle au RPT.
Ah d'accord. Ok, d'accord.
Voilà. N'empêche que ça reste du sérieux. Il y a une petite somme en jeu et tout. Donc, voilà.
Bah, le coach, je te conseille de. Restez chez toi, Daniel.
Non, je suis qualifié.
Non, mais quand il va
qualifié pour cette grande finale annuelle.
N'y va pas.
Non, mais dans l'ensemble, bien évidemment.
Oui, en plus, c'est chez moi. Donc step, je suis en plus organisateur.
Non. Ah, c'est... Okay. Puis, je trouve qu'après, il y a. C'est vrai qu'il y a coach et coach, mais c'est surtout l'approche. Moi, l'approche qu'a eu Flavien avec moi, je l'ai trouvé top, comme elle a pu l'avoir Romain.
Toi, t'en as connu pas mal, toi, en plus.
J'ai eu Game Jenner que j'embrasse, et bien évidemment.
C'était au tout début.
C'est tout début.
Après, t'as bossé avec Romain.
Après, je suis passé avec Romain par rapport au Triton, et ensuite, lorsque on a tourné, bien évidemment, dans la tête de Moundir, il y avait des choses où je disais que j'avais mal joué. Flavien était venu vers moi, et franchement, il a eu une démarche que je trouve exceptionnelle, parce que dans ce monde de poker, je trouve que les gens sont pratiquement tous égoïstes. Et ben, tu vois, ben, figurons, non, parce qu'il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, voilà, je trouve que t'as fait des jolies choses, il y a des choses que je peux t'apprendre et qui va te changer ton jeu. J'ai snappé de suite, tu vois, et puis on avance et c'est super. Et puis je l'en remercie infiniment, quoi, parce que c'est il faut des gens comme ça qui puissent faire confiance à d'autres personnes, que ce soit des personnalités ou d'autres, un peu comme si Apo qui effectivement parfois offre aussi des entrées à des gens qui malheureusement n'ont pas les moyens. Et ça, c'est super. Je pense que c'est ça le poker aussi, c'est de pas oublier l'autre. Bon, bien sûr aussi le boss.
Là, t'es en train de nous dire qu'il t'a fait croquer une leçon.
Bah, pas qu'une, mais de toute façon moi c'est j'oublie jamais les gens avec lesquels
on a compris. Il t'a bien remercié là, Flavien. Maintenant, faut voir s'il progresse. Quand moi, je dans 15 jours, on est à Marrakech. Je vais tout de suite voir. Hein.
Alors 15 jours, c'est un petit peu trop court, quand même. Ouais. Il va falloir bosser quelques semaines, quelques mois, quand même. C'est pas instantané.
Aïe.
Et tu sais, il y a deux types d'élèves qui viennent. Il y a ceux qui croient que je vais modifier leur manière de jouer, qu'ils n'ont pas besoin de faire de travail.
Qu'ils
n'ont pas besoin de travailler.
D'accord.
Je vais leur donner des choses et
ils vont juste prendre les clés.
Ils vont progresser.
Ils vont juste prendre les clés.
Il y en a d'autres qui ont compris. Et en général, c'est ceux qui vont le plus se nourrir de mon coaching. Par contre, ça demande un travail en dehors qui est énorme. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait les cours, je dis à l'élève, tu enregistres la vidéo, tu enregistres l'échange, tu vas prendre des notes et au prochain cours, on va redébriefer sur ce que tu avais compris. Et moi, je vais vérifier si tu as compris ce qu'on a fait. Parce que mon but, c'est pas de te donner des guides, des choses que tu vas appliquer par cœur, parce que sinon, tu seras pas meilleur en fait.
Mais ouais, c'est de te déconstruire si on te donne le jeu les clés, mais on ne dit pas où est la porte.
Pour te faire comprendre le jeu. Et
tu peux pas rentrer.
Honnêtement, il y a au moins, allez, peut-être pas au moins, j'abuse, mais je pense qu'un élève sur deux progresse. Très très peu dans ses coachings parce qu'il le prend pas de la bonne manière.
Ah bon?
C'est con de dire t'es le deuxième, quoi. C'est, le...
c'est un peu ça. Je m'attendais à une vanne.
Trop tourné.
C'est bizarre, il m'a pas vanné aujourd'hui. Bonne année. 2024, bonjour. C'est sympa.
Il n'y avait pas de tacle.
Non, mais je sais, t'inquiète pas. De toute façon, on chantera la Marseillaise, ne t'inquiète pas cet été.
Eh oui. Il arrive en avance, il nous rejoint.
Ah oui? C'est qui?
Pierre Calamusa, le colloque.
Ah, mon loulou.
Et là, salut Pierre.
Salut Daniel, salut Mounir, salut Flavien.
Hello.
Ah là là, quel plaisir que de retrouver ça, ça m'a rappelé ma jeunesse.
Parce que vous bossiez ensemble.
Mon ex tout court. Ouais, on était ensemble à Malaga. Ouais, on a commencé sur Poker Academy ensemble et c'était l'une des personnes qui m'a fait le plus progresser au jeu. Je crois que c'était un peu mutuel. J'ai hâte de faire cette main commentée avec lui pour pouvoir un petit peu voir ce qu'il a dans le ventre.
Ah, dans la tête d'un fiche, dans un instant, c'est vrai qu'on aura deux coachs.
J'avais une question qui était ultra importante, parce qu'on parlait du Poker Monde tout à l'heure, là je me retourne vers vous. Greg, Apo, à quand un Apo à Vegas? Non mais moi, attends, vous, on le dit, est-ce que c'est
possible? Moi je suis sûr qu'Apo, il a ce rêve-là. À un moment, que les frontières européennes, ça va être trop petit pour Apo.
Bah, déjà, il a dit qu'il venait à Vegas cette année au World Series.
C'est vrai? Non, Apo, t'attends l'année où je suis pas là.
Oh là là. Ah, tu vas le jouer? Il va faire ITM. Il va me faire une Monaco encore. Alors, est-ce qu'il est possible un jour d'avoir un Apo à Vegas?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, un Apo à Vegas? Faut être précis.
Un tournoi Apo à Vegas, populaire, comme le fait avec le Gladiateur ou,
D'après ce que j'ai entendu, les rumeurs à Vegas, c'est déjà dans des discussions, non?
Ah. Non mais c'est pas secret quoi. Attendez,
je sais pas.
Il y a pas de micro.
Moi, il m'en a pas parlé.
Ouais, mais alors c'est là que il faut que tu m'expliques un peu. Voilà. Parce que tu sois motivé par ça, évidemment, c'est bien et tout. Mais de ce que je comprends de ton travail, si on prend par exemple ici, c'est ton savoir-faire sur l'organisation d'un tournoi fait que les joueurs qui viennent à tes tournois sont des habitués. De ces habitués, tu séduis des nouveaux qui savent que les tournois d'Apo se passent super bien et qui viennent, font le tour de France là où tu les organises, jusqu'à San Remo. Passer l'Atlantique, aller à Vegas, toute cette orga, je veux bien concevoir que tu transportes les tables, toute ton orga, ton savoir-faire, tout ça, il n'y a pas de problème, mais on va dire la famille Texas Poker, la famille Apo, comment elle fait pour venir te suivre? C'est là qu'il faut que tu m'expliques comment tu vas faire.
Ça va être plus compliqué. On va trouver des nouveaux clients.
C'est ça. Et mais comment? Parce qu'ils ne te connaissent pas. Nous, quand je vois Texas Poker, quand je vais à San Remo, je sais qu'il y a la pâte à peau, le tournoi va être super bien organisé. Si je vais en France, là, partout où tu les organises, où Moundir va très souvent, il sait que c'est bien, il revient, il dit je fais les tournois à peau, c'est super, tous les gens. Mais ils sont habitués, ils n'ont pas un avion à prendre, enfin en tout cas, ils n'ont pas l'Atlantique à traverser pour retrouver ton savoir-faire. Là, ça va pas être simple de faire bouger toute ta famille.
Toute ta famille, non.
Non, mais il a tout maintenant. Il a les partenaires.
Les gens qui vont jouer ces tournois.
Mais ils vont le faire avec
plaisir. Aux États-Unis, dans le Nevada, ils savent pas qui c'est, Apo.
Mais on s'en fout. Ils vont savoir qui c'est. Faut pas commencer. Enfin, c'est un peu comme toi à l'époque en boîte quand tu te faisais jeter. Tu te rappelles? Bon, il faut être habitué.
Comment on fait pour percer sur un nouveau marché dans le poker? Expliquez-moi.
Et on va étudier ça.
Bon, ça, c'est pas assez. Greg, comment on fait pour percer sur un nouveau marché dans le poker?
On prend une marque forte et puis on fait ce qu'on sait faire.
Ah, voilà. Donc on prend une marque forte. Donc on prend le tampon WSOP.
Avec Apo.
Avec Apo. Et Apo, il se charge du reste.
Ah, Apo.com, je kifferais quand même. Apo.com, ça.
Pour l'instant, il est quoi, Apo? Il est en .fr et en .it?
.eu. Europe.
Ah, oui.
.eu. Donc c'est
déjà, il grignote des pays. L'Italie.
Eh oui.
L'Italie, Malte, la Grèce.
Ah.
Alors, je descends en Barcelone, en Espagne, et après voilà. On voit le reste.
Je pense qu'on va faire du pays, hein, Daniel. On va faire du pays. en parlant de coaching, bien évidemment, je parlais de Flavien. Flavien, il faut absolument que tu nous dises. Alors, comment on peut accéder justement à ta formation Kill Tilt avec, bien évidemment, Chichi, Loose,
notre Loose Lee.
Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce challenge Kill Tilt et tout ça?
Ouais, alors vous aviez reçu Chichi l'année dernière, je crois qu'il était pile dans la même période.
Ouais, on lui a porté bonheur, tu peux le dire.
Ah ouais.
Et ben, est-ce qu'on peut faire pareil pour moi, s'il te plaît. Donc, le challenge 2023, c'était avec Chichi, effectivement, et Sylvain, et on avait coaché Chichi qui se mettait en tournoi. C'était la trame de base.
Oui, parce que c'était un joueur
de cash
qui s'est lancé dans les tournois et ça s'est tout de suite bien passé à Vegas.
Exactement. Oui. Donc on a fait beaucoup de coaching avec lui et le but du challenge l'année dernière, c'est qu'on faisait des vidéos, plusieurs vidéos par semaine avec Sylvain où on coachait Chichi, on le mettait au tournoi. Cette année, il est devenu un joueur pleinement de tournoi et on refait le même process cette année, mais avec cette fois-ci non plus deux coachs mais trois coachs parce que Chichi est un joueur émérite de tournoi désormais. Et donc on a refait une formation qui débute maintenant. Donc je précise, on peut s'inscrire jusqu'au 10 janvier et ensuite c'est terminé parce qu'il n'y aura pas d'inscription tardive. Le but étant qu'on a une trame, en janvier on bosse un thème, en février on bosse un thème, en mars on bosse un thème, on fait deux vidéos par semaine, ce qui fait 12 vidéos par mois, 150 par an.
Ah, c'est du boulot.
150 vidéos par an, c'est 600 euros, la formation, 599 euros. Mmh. Et on va donc faire ces 150 vidéos-là, plus il y a accès à un Discord où tout le monde poste ses mains, on répond à tous les mains de tous les élèves qui postent toute la journée.
Super.
D'accord. Et on a cette fameuse trame pédagogique. Et on va dire que la différence par rapport aux années précédentes, déjà, c'est qu'on est trois coachs au lieu de deux. Et on a complètement changé la trame pédagogique. C'est-à-dire que là où avant, c'était pas spécialement moi qui avais fait cette trame là. On avançait un petit peu à vue. Et ben maintenant, c'est, on va dire que c'est, on a décidé au préalable. Ok, c'est ça la thématique qu'on doit bosser. C'est la thématique qu'on doit bosser par rapport forcément à notre expérience pédagogique, j'ai envie de te dire. Voilà.
Bon, ça c'est franchement, je trouve ça top. Moi personnellement, je trouve
donc
ça top.
Tous les trois, vous avez adopté la même stratégie de stratégie. Formation.
Alors non, c'est avec Kiltil. C'est Kiltil qui fait ce challenge là. Et on est tous les trois coachs pour faire ceci. Donc en fait, il y a des vidéos qui seront faites soit par l'un, soit par les deux, soit par les trois en même temps. Ouais. Et donc on a déjà la trame qui est prévue avec, par exemple, on va voir le jeu préflop, on va voir les sizing, les textures, les trois bêtes, tout plein de choses comme ça. Et la formation va durer toute l'année. L'année dernière, il y avait eu près de 1000 personnes. Et là, on est parti pour
1000 personnes qui voulaient une formation.
C'est énorme.
Qui ont fait la formation.
Qui l'ont fait.
Qui ont fait l'année dernière.
Oui, qui l'ont voulu. Qui l'ont
fait. Et donc, on est reparti cette année, pareil, pour 12 mois. Alors, je dis juste un truc, c'est qu'on s'arrête à partir du 10, puisque le but, c'est que les choses sont complémentaires. Si on commence à bosser un sujet au poker, puis on va sur un second sujet, il y a besoin du premier sujet. On va au troisième, on a besoin du premier et du deuxième sujet. Donc, on peut pas arriver en cours d'année et vouloir bosser parce qu'en fait, ça va être trop galère et les gens vont pas apprendre les choses. Donc, on peut s'inscrire jusqu'au 10. Si on s'inscrit pas après le 10, bah, c'est terminé. Il faudra attendre l'année d'après. Voilà.
Très bien. Avant de marquer une deuxième pause, de revenir avec Pierre Calamusa qu'on a perdu parce que la ligne était pourrie.
Décidément.
De jouer ensemble. Bernard va jouer avec Greg qui cette année Greg il est venu, il a même pas pu faire un RPT.
La faute à qui?
Il est même pas participé.
J'ai pas de résidence.
Nous avons les vidéos d'une grosse partie de cash game en 200-400. On a des dossiers.
Néanmoins, quand même, il faut donner une sorte de petit calendrier. Là, on peut baisser un peu le tapis musical, juste 2 minutes. Prenons 2 minutes.
J'aime beaucoup.
Parce que 2024, il faut quand même dire qu'on vient de démarrer les Wina Series.
Aujourd'hui, bien évidemment.
Tournoi mondial.
Ouais.
Il y en a 266 jusqu'au 18 janvier.
Bah ouais, c'est une
garantie. Il y a jusqu'à 27 millions qui vont être distribués.
Bah ouais.
Tu les joues ces tournois-là sur Internet, Bernard, toi, les Wina Series ou tu participes?
Oui,
ou pas?
Tu joues.
Ok. Il va y avoir. Bah non. Il faut quand même donner le résultat parce qu'après il y a eu les fêtes et il y a Noël, on l'a pas dit.
Exactement.
C'est Dan Sepiol, l'américain, tu le connais, Greg?
Ouais, Sepiol. Floridien.
Ouais. Gros joueur.
Ouais.
Ça va. Joueur moyen qui a gagné 5,3 millions de dollars.
Pas mal.
Le WPT World Championship. Vous connaissez WPT ou pas, Greg?
Ça me dit quelque chose.
Ah non. Autant j'accepte que tu me vannes. Bravo, et pente.
C'est ça, l'arrogance US. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Le meilleur français, je ne le connais pas. C'est Maxime Chilo.
Oui, je le connais très bien. Gros règle, qui était chip leader à un moment. Hein, qui était chip leader.
11e, il a quand même pris 456 000. Son Noël a dû être plus agréable.
Ouais, je pense que le sapin était bien chargé. Il était en chaîne, hein, même d'ailleurs, le sapin.
Ah ouais, il était en chaîne, en or. Si tu veux, il était en or, même le sapin. Il y avait le classement des influenceurs du poker où tu avais eu une très belle deuxième place.
Podium, deuxième place
pour toi.
Podium,
les 30 personnalités du poker en France, ça c'est un.
Il y a eu 20, il y en a même 30.
Voilà. On a progressé, on est passé de la 16e place à la 11e place pour le RMC Poker.
On est toujours là.
Jérémy, Moundir. Notre équipe à trois.
Voilà,
on est 11e.
Toujours.
Et c'est normal.
Bon, on y vient aussi, non?
On y était tous.
Moi, c'était
sous l'entité Kiltil, bien sûr.
Bien évidemment.
Greg, évidemment, est premier. Et Apo est deuxième. Avec ça, si on n'a pas.
Tu vois, Apo. Ah, bah là, on peut mourir en paix.
Bernard, il faudrait que. Si tu peux aller gagner un tournoi à Vegas, si tu veux être dans le classement.
Petit bracelet,
je pense que.
Il est jamais été à Vegas.
Monsieur, il a déjà été à Vegas.
Double SOP?
Non, double SOP, je parle. Il est connu là-bas.
D'aller à Vegas à l'époque, joueur de foot, la piscine, les cocktails, c'est une chose. Moi, je te parle de Double SOP.
Non, j'avais été invité par Winamax pour faire un tournoi et je suis resté, 30 minutes à table. C'était la première, j'avais les yeux qui brillaient. Et...
il a perdu tête. Les tournois, donc il y a un WPT, une marque que Greg connaît bien.
Oui, c'est des amis.
Aix-en-Provence, du 1er au 5 février. On a EPT Paris.
Oui.
14-25 février. Exactement. Il faut donner un peu les programmes au début d'année, c'est important. La grande finale, WIPT, du 12 au 17 mars.
Qui va être énorme.
Porte de Versailles.
Eh oui.
Le PT Monte Carlo, traditionnel,
que j'ai jamais
classique.
Fait.
Comment ça, t'as jamais fait?
J'ai jamais fait Monaco.
T'as jamais réussi à le croquer.
Il y en a deux que j'ai pas fait. Il y a Monaco et les Bahamas. Merde alors.
C'est pour toi, Monte Carlo, maintenant, avec ta surface financière, Monte Carlo, c'est pour toi.
Mais tu rigoles ou quoi?
24
la banane est à 8 euros.
Carlo, demande à Carlo.
Ah non, j'embrasse très fort.
24, ouais, mais justement, embrasse-moi encore plus fort et ça va peut-être tomber. 24 avril, 4 mai. C'est dans le désordre hein, parce que WSOP Marrakech, il arrive maintenant du 12 au 21 janvier. Bon, ça, c'est le prochain, on y
sera.
L'année dernière, on y était, mais il n'avait pas le tampon WSOP, il est monté en gamme. Hein.
Si. Les WSOP reviennent. L'année dernière,
quand on y va.
Non, c'est pas un WSOP, celui du mois de janvier. Non, c'est un MPO.
En janvier.
Ça fait
10 ans.
Ah, Daniel.
Je mélange avec les dates et j'étais sur Sismix. Il y a une seule marque, c'est WSOP. Ah, ouais. Sache-le, ne l'oublie jamais. C'est voilà.
J'en connais un qui va aller au Bahamas. Hein.
Il n'y a qu'une seule marque. Répète-le encore.
Il n'y aura qu'une seule avis. Voilà. Et on est trois. Voilà.
C'est 28 mai, 17 juillet cette année. Les dates sont tombées, mais pas encore le calendrier. Et puis évidemment, le PT Barcelone.
Et Jean Bouin. Et Paris, WSOP, du 22 au 28 mai à Jean Bouin.
Ah oui,
le 22, stade français.
28 mai.
Ah oui,
à Jean Bouin.
Juste avant les
matchs. Il était là, Jérémy vient d'arriver, il me dit putain, tu sautes les lignes. Mais oui, j'ai pas mis mes lunettes, regarde, elles sont là. Mes
avec des matchs de foot aussi.
Avec des matchs de foot organisés.
Avec de quoi ?
Il y aura des matchs de foot, ouais.
À Jean Bouin, il n'y a pas de terrain de foot à Jean Bouin.
Bah si, Jean Bouin. C'est un terrain de foot. Alors, tu enlèves les poteaux et tu mets des buts.
C'est un terrain de foot à la base.
Tu coupes les barres.
Toute merde alors.
Daniel, comme coach, hein ?
Les filles du PSG s'entraînaient là-bas.
Oui, on jouait aussi là-bas.
Ouais.
Ah oui,
ben voilà. Là-bas.
Donc l'année dernière, on a fait des matchs.
Ça, c'est bien ça. Donc il y aura deux maillots rouges WSOP, des maillots blancs WSOP.
On sera là, on sera là, on sera là.
Il se peut qu'il y ait un triton entre
temps. A tout de suite, à tout de suite.
Bah RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Troisième partie du RMC Poker Show.
Oui.
C'est là que le moment arrive.
On a le podium.
L'heure des braves. C'est là que ça joue. On rappelle quand même notre plateau. Greg Chauchon est là, Apo Chantis est là.
Quel plateau ?
Fabien Guénon est là. Bernard Mendy, Narbé Mendy est là.
Oui, Choukran. Le hunter Choukran. Brésilien.
Choukran. Voilà.
Choukran Makesh.
Pierre Calamisa est-il revenu ?
Ah.
Je suis là.
En plein série.
Allez, Jérémy Servin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonjour, patron.
On complète le trio 11e.
Il y a un côté de James Cameron quand même. Il y a un côté de James Cameron, réalisateur. Ouais,
j'aime bien. Bon, ça va.
Producteur, non, lui, est plus. Voilà.
C'est préféré.
C'est parti pour Dans la tête.
Allez, on joue jingle.
On y va.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Bon, Jérémy, il y a beaucoup de joueurs. Il va falloir.
Il y a beaucoup de joueurs. Donc, deux coachs, on est d'accord ? Les deux anciens colocs ?
Oui.
Voilà. Flavien et Pierre ? Ouais. Tous les autres sont des joueurs.
Greg, le patron, il fait quoi ? Il joue comme un joueur normal.
Ou bien sûr.
Ouais, voilà. J'arrive pas à être niveau pro non plus.
En fait, il fait la erreur à Rosmadov.
Bien sûr. On peut le respecter en tant que patron, en tant que boss. Ouais. En tant que joueur, on a le droit de pas le respecter.
Non. On respecte les WSOP.
On a le droit de le considérer comme notre égal, je veux dire.
Ouais. Oui, bien sûr.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Il n'y a que 4 lettres qu'on aime dans l'alphabet.
Encore une fois, il est venu au RPT. Il nous a tous mis à poil. Hein.
Ah ouais, bah oui.
T'étais là la fois.
Non, non,
bah justement. Oh là là, il est venu là. Pouf.
La main de Dieu.
Il a mangé, il a ramassé l'oseille, il est reparti. Il a rien
vu. Ah le salaud.
Moi je pensais que ça n'avait pas joué. Je disais, le patron.
Pardon.
Le WSOP, je dis, oh ouais. Il est tellement occupé à organiser.
Bah, il a géré les pots de barrière. Et tu rigoles, il tire les cartes.
C'est il y a longtemps tout ça.
Bah, c'est vrai. Bon, c'est comme le vélo, n'oublie pas.
Allez.
Visiblement, ça s'est pas oublié.
On joue, on reste à Paris, les amis. On va jouer le PT, le main event à 5 300 €. Ça s'est joué l'année dernière. Ah. Plus de 1600 joueurs, c'était un gros tournoi, grosse réussite. On est à 9 places de l'argent, un petit peu stressé.
Ah, autant dire que ça va serrer,
ça va serrer, serrer les fesses.
Oui, les noix vont casser.
On a un stack de 380 000 jetons aux blindes 5000, 10 000, une quarantaine de blindes. Il y a une ouverture du joueur UTG à 20 000. Ce joueur a un stack de 250 000, donc on le couvre. Ça fold jusqu'à nous, et on est au bouton et on ouvre Roi-Dame dépareillé, Roi de trèfle, Dame de cœur.
Roi-Dame, hein.
Roi-Dame. Roi de trèfle, dame de cœur. Greg Chauchon, qu'est-ce qu'il fait avec dame de cœur au bouton ? Il a fait 20 000 fois 2.
Ouais, je vais payer, moi.
Just call, Apo, call, Bernard.
Ouais, pareil.
Pareil ? Pas motivé ?
Non, pareil.
Comment ça, pas motivé ? Call, il a pas besoin d'être motivé pour call. Il va pas sauter au plafond.
Non, non, moi, j'ai pas envie de flat.
T'as envie de revenir dessus ?
Ouais, enfin, il a open, c'est ça ?
Il a open UTG, ouais.
Il a open UTG, moi, on a 40 blindes.
Un peu de force.
On a 40 blindes ?
Ouais.
Moi, je suis partisan pour le 3-bet.
Ok.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils disent les coachs ? Flav,
t'en sais combien ?
Et moi,
pardon Daniel.
Excuse-moi,
j'ai oublié le principal.
Alors,
Il fold.
C'est un fold.
Il fold.
Je peux pas imaginer.
Je call, mais.
Tu pensais à lui revenir
bouton avec l'UTG Roi-Dame, il n'est pas exclu que je réfléchisse.
À la bulle, en plus.
Dans. Je dis pas exclu que je 3-bet ça, mais je pense que la plupart du temps, je vais quand même call.
C'est payé. Flav,
est-ce que j'ouvre le bal ou Pierre le fait ?
Vas-y, t'es en studio.
Alors, on va dire que j'attribue une note de 6 sur 10 au call et 10 sur 10 au 3-bet.
Ah ouais, d'accord.
Et 10 sur 10 au 3-bet ?
Ouais, je crois. Non, on est à un moment où on couvre l'adversaire, c'est nous qui lui infligeons la pression de la bulle, en fait. Si les stacks étaient complètement inversés, ce serait l'inverse complètement et ça se jouerait entre fold ou call. Là, vu les stack size, bah, évidemment que call, ça va probablement gagner de l'argent parce que la pression qu'on peut mettre pré-flop, on pourra la mettre également post-flop et qu'on a une main qui est plutôt correcte. Mais vu notre main, ça joue extrêmement bien à surlancer l'adversaire. Puis il faut voir que s'il relance 2, que nous on 3 bet à 6, en fait il est dans une situation un peu merdique parce qu'il va devoir faire tapis ou folder la plupart du temps, c'est très inconfortable de payer. Et il va vraiment passer des tas et des tas de mains proches de la bulle, même As-Dame dépareillé. On peut même imaginer 2-9 ou 2-10 qui peuvent rien faire. Donc,
Pierre, relance. Moi, est-ce que tu es d'accord
sur ce genre de mec qui fold une fois
que le pété, vu le pété, Daniel.
À 9 places, ouais.
Alors, comme je joue pas ces tournois-là, moi, je vais
comparer sur un mec qui va faire
une horreur après, moi.
Pierre, tu es d'accord avec ton ex?
Ouais, contrairement, quand tu relances en premier de parole ou en deuxième de parole, par exemple, c'est souvent Roi-Dame off, As-10 off, As-Valet off, etc. Toutes ces mains-là, des paris avec des cartes hautes qu'on va utiliser pour 3 bêtes en bluff et passer sur un tapis adverse.
Ok.
Pourquoi on a une communication aussi dégradée?
Je ne sais pas. On n'est même pas sur Reported, je ne sais pas.
Non, je crois qu'il y a
le biberon. Il est en train de cliquer.
T'es dans une grotte, Pierre? C'est quoi?
Voilà. Non, mais en fait, je suis en train de jouer les Winamax Series et je captais pas bien dans mon appart.
Il est sur Nomad, tu n'es pas excusé.
Mais là, le delay, il est trop beau le dimanche. Il y a le 1000, il y a tout. Enfin, c'est un fold-up.
Bon, nous, on n'a pas 3 bêtes, on a juste payé. Le pot fait 60 000. Le flop vient 9 de carreau, dame de pique, 10 de trèfle. On a top pair. Et notre adversaire va c-bet 20 000 dans 60 000, un tiers du pot. Je vous écoute les amis, pareil, Greg, qu'est-ce qu'on fait sur ces 20 000? Est-ce que là on lui revient dessus
maintenant? Ouais. Nous aussi on l'a le ventral.
Mm-hmm. Ouais, si j'ai call préflop, je pense que je call juste.
Moi. Pareil, moi. À pot, sur ce joli petit flop.
Attends,
avec
il a fait quoi?
Pair.
J'ai pas entendu.
Il a fait 20 000 dans 60 000.
Non, mais il a call
préflop. Il a c-bet.
Ouais. Ah oui, il a c-bet.
Ouais, il a c-bet au flop. Oui. 20 000 dans 60 000 et c'est à nous de prendre une décision. Donc c'est call chez Greg, à pot.
C'est call chez moi.
Prends la température, je tribette.
Tu relances, d'accord. Daniel, c'est payé. Ouais. Moon.
Bon, sur la configuration, bon, moi j'ai 3 bêtes préflop, on est d'accord. Moi je pense que je vais garder tous ces bluffs. Je vais call. Je vais garder tous ces bluffs. Peut-être qu'il a dame valet, les dames 10, dame valet, tout ça. Mm-hmm.
Norby.
Top si pair, il a dame 10, c'est pas bien. Donc vaut mieux pas qu'il ait dame 10.
Ouais.
Ah, parce qu'il y a le 10 au flop. Ouais,
il y a 9-10
d'un.
Top pair, je call. Ouais. Top pair, c'est payé. Flav.
Bah, 0 sur 10 le fold, 2 sur 10 le raise, désolé à pot, et 10 sur 10 sur le call. Simplement, on a une main qui est correcte, mais qui n'est pas suffisamment forte pour vouloir faire grossir le pot et relancer. En plus, on est à la bulle, donc l'adversaire ne va pas faire tapis des mains que l'on bat. Donc non, on va payer tout simplement.
Pierre, on est d'accord?
En vrai, on est déjà mal. On est vraiment mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a la ventrale en plus. Mais sa range au mec, elle est tellement forte et c'est pour ça qu'on aime bien 3 bêtes pré-flop pour pas avoir à jouer trop post-flop. Là, ça sent déjà un peu le rousti, mais bon, pas d'autre choix que de payer simplement.
On a payé cette mise, le pot fait 100 000, le turn doublette du 10, le 10 de carreau, deuxième carreau sur le board. Et cette fois, notre opposant check. Et c'est à nous de parler. Greg, qu'est-ce qu'il veut dire ce check? Est-ce que t'es à l'aise? Est-ce que t'as envie de miser, de faire grossir le pot ou pas?
Je pense que le coach va dire qu'il faut miser, mais bon.
Non, d'abord, on voudrait que tu parles d'abord.
C'est toi qu'on veut entendre.
On voudrait que tu parles d'abord.
Ouais, on va miser.
On va miser combien dans 100 000?
Un demi-pot.
50 000 dans 100 000, ok. À pot.
Je check.
C'est un check. Mundia.
Moi, je vais checker. Pourquoi? Parce que si je bête à ce moment-là et qu'il me revient dessus, j'aurais très mal joué. Et je pense qu'il serait au-dessus et je folderais. Je pense que je vais contrôler le pot et puis je vais check comme lui.
Bernard? Pardon.
Non. Moi, j'aurais relancé, là.
Ouais.
Ouais.
T'aurais fait combien en 100 000?
40.
40 000, ok. Daniel?
J'ai à peu près la même réflexion que dire. Là, je check tout simplement avec, dans l'idée que, en fonction de la river, il y a quand même, dans 80% des cas, je collerai encore, avec madame, à moins que, ça dépend de la carte qui tombe. A priori, il y a quand même plus de cas que ça se finisse comme ça. Et pour contrôler le pot, pas le faire grossir, il y a trop de tirages, il y a des quintes, il a ouvert UTG, il a plein de possibilités. Bon, on a permax là comme ça, mais bon, on n'est pas non plus méga costaud, donc voilà.
Flav.
C'est passé un truc marrant, c'est Daniel, avant de donner sa réponse, m'a regardé en mode attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, non, moi je pense qu'on check hein, très très clairement. On n'a pas une main qui est si forte que ça, premièrement, et puis il faut. Ce 10, il touche beaucoup notre range, il touche pas du tout son range à lui ou presque. Il l'aurait souvent checké avec un 10 au flop. Et ça veut dire, pourquoi je dis ça? Parce que c'est-à-dire que s'il a deux As, deux Rois, As-Dame, des mains comme ça, il va sans doute checker sur ce 10 à la bulle. Donc notre main n'est pas du tout si forte que ça, on n'a pas spécialement envie de faire grossir.
Et tu perds pas de value?
Mais en fait, les mains sur lesquelles tu as de la value, probablement que tu n'as qu'une street déjà pour commencer, donc tu pourras la prendre à la river, t'as aucune protection à prendre quasiment. Et en plus de ça, c'est bien de value des mains, faut penser aux mains que tu value, mais pense aussi aux mains contre les gars tu te value cut, c'est-à-dire celles qui te battent. Et il y en a quand même tout un paquet dans sa range UTG.
Il y en a beaucoup, ouais.
Ok, Pierre dans ta grotte.
Ouais, tout pareil que Flavien.
C'est trop facile.
Oh là là, c'est trop facile.
Les deux là.
Comme d'habitude.
Bon, c'est ce qu'on a fait. On a tapoté la table. River 2 de carreau. Troisième carreau sur le board. Et là, notre opposant va reprendre l'initiative. Et va miser 150 000, overbet énorme de notre adversaire.
Wow. Ouais, comme je disais, moi, je veux bien parler premier et me cramer éventuellement, et comme ça, j'aurai l'avis des coachs tout de suite. De toute façon, je sentais, hein, en cas de brique, en cas de carte qui change pas grand chose, que de toute façon, je collerais à peu près tout maintenant. Le fait qu'ils misent beaucoup ou pas beaucoup va pas changer grand chose. J'ai du mal à interpréter cette mise, même si elle est importante. Je vais call avec madame. Mm-hmm. Je vais call avec madame.
Ok. Greg.
Ouais, je vais call aussi.
Il y a tous les cas où il a ouvert avec As-Valet, même avec As-Roi, même avec une paire. Après, faut pas que ce soit paire de 10, paire de 9, paire de Valet. Ouais, il y a plus de cas où je le bats quand même, quoi. Donc, je vais call. Je vais call.
Apo?
Call.
Call.
En plus, on est bien d'accord, on a la bulle de l'EPT.
Ouais, on a 9 places de l'argent.
Place déjà, donc les joueurs sont quand même forts, font bon. Si vraiment le mec était bien chargé, était pas chargé, je pense qu'il aurait bet turn sur la doublette du 10 pour arracher le coup. Quand il check, je pense que c'est pour trap. Moi, je vais fold la mort dans l'âme.
Bernard.
Je fold.
Flav, du coup?
Tu le vois avec quoi alors?
Je pense que les rois ou les rois, les as, où il a frappé
les, full. Les rois, les as.
Ouais. Où il a frappé. Où il frappe.
On tombe super mal. Si c'est ça, quoi.
Bah ouais, où il frappe full parce que.
Mais moi à la turn j'ai relancé. Hein. Donc il colle.
Ouais. Bah.
Et là il met un.
Ça on sait pas.
Ça on sait pas.
Ouais mais.
T'as été dans la bulle toi.
Ouais.
On t'écoute Flav du coup. Qu'est-ce que ça veut dire River?
Autant dans les streets d'avant, j'étais vraiment en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien, que là il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Mmh. Là on est dans un territoire un petit peu, on va dire, compliqué. J'ai envie de dire, le problème si on passe, c'est qu'on a systématiquement ce genre de main et c'est une des mains les plus fortes qu'on peut avoir ici. On pourrait jouer hyper bizarrement ou tricky, avoir 2-9 et avoir check back full, des mains comme ça, mais la plupart du temps, quand on check turn, on a tout le temps une dame, quelque chose. Ce qui veut dire que notre range est assez capé et on a toujours au mieux une dame. Et quand on fold la main la plus forte de notre range, c'est toujours un petit peu compliqué, donc ça pourrait nous donner envie de call. Intéressant de savoir si on a le roi de carreau ou pas dans notre range, ça peut bloquer des flushs adverses, c'est une considération importante. Quoi qu'il en soit, je crois que je fais fi de la théorie, je m'en fous et je vais juste passer parce que je crois que c'est le genre de situation où l'adversaire va très très peu bluffer, qu'il a l'impression qu'on a assez fréquemment une dame. Et en plus, quand il mise 15 big blinds ici, on a misé 2 au flop, 2 pré-flop, il ne restera que 8 big blinds si jamais ça passe pas. Ce qui compromet extrêmement son stack pour l'ITM. Donc j'aurais tendance à faire un fold. Voilà.
Pierre.
Tout pareil. Je pense que c'est intéressant dans cette main-là, par exemple, si on est en live, de se pencher sur les tels physiques, que quand il fait une énorme mise, si jamais il est en bluff, il va pouvoir laisser transparaître des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans ces décisions qui sont un petit peu dans la zone grise, où là, ça va prendre toute son importance, quand David va pouvoir prendre une décision correcte, ne pas tuer la PROI, s'en écarter, etc. Donc ouais, là, ça aurait été intéressant de voir ça. Et je pense que sans indice spécifique, j'aurais tout simplement passé. C'est trop des lignes qui sont prises, simplement avec Brelan, avec deux As, etc. Donc, ça, pas de problème.
Ok, nous, on a call rapidement, et en face, il a retourné paire de neuf. Pour full.
Full, ouais.
Oh, je l'ai fait ce week-end, le même full à San Remo avant-hier. J'ai fait le même.
T'as fait le même?
Ça a donné quoi à San Remo d'ailleurs? T'as fait l'argent?
Ça a donné pas grand chose, mais j'ai fait ce full.
C'est toujours ça.
Ben oui.
Merci beaucoup Greg Chauchon d'être venu dans le RMC Poker Show. Évidemment, on en parlera dès le début, et notamment au moment où il va y avoir le calendrier.
Ouais.
On l'attend avec impatience. Apo, on se revoit prochainement sur des tournois.
Bah oui. Avec grand plaisir.
Parce que tu es un homme qui a toujours de l'actu.
Exactement.
Toujours.
Le livre ne se referme jamais.
Plein de ton actu, toi. C'est ta formation.
Bah, la formation qui va demander beaucoup de travail là. Et sinon, je pense qu'on se revoit peut-être au WIPT Paris, sans doute.
Bah, tu vas commenter.
Ouais.
Ou au Marrakech, c'est éventuellement.
Non, j'y serai pas à trop de boulot d'ici.
Ah, d'accord, c'est logique.
Et puis on a Bernard qui va réfléchir pour Marrakech.
Marrakech, Bernard?
Inch'Allah.
Et qui en attendant va jouer au poker. T'as un petit tournoi en vue prochainement?
Ça va dépendre.
Donc,
de mon
on a pas parlé.
Le FPO, non?
Le Cabourg, c'est fini, les tournois qui étaient bien et tout. Quoi, ça reprend?
Mais j'ai Cabourg tous les mois.
Ah bon?
Tous les mois?
Oui.
Bon. Ouais, mais avant, c'était tous les vendredis.
Oui, là, mais
là j'y étais.
Tous les
mois. Tu tombais sur Bernard.
Jeudi, dimanche.
J'ai du jeudi au dimanche, tous les mois, Cabourg.
Moi, je ne peux plus à Cabourg.
Sauf les deux mois d'été parce qu'il y a trop de monde.
Je vais plus à Cabourg.
Tu vas à Deauville maintenant, non?
C'est fini. Je vais plus. C'est fini. J'ai changé de région. Terminé.
Bon, je t'emmènerai si c'est ça.
On te dira la semaine prochaine.
Bien évidemment.
Et dans deux semaines, on sera en direct de Marrakech. Marrakech
pour le Charles Poker Show.
Premier grand rendez-vous pour nous en 2024. Bonne semaine à tous.
Merci à tous. Ciao.